Le sommaire du journal des médias.
Une série qui fit polémique avant même sa diffusion, une pièce de théâtre en direct coupée par la pub, des écuries royales, le chef le plus étoilé au monde et des journaux plus chers et une retraite bien méritée.
Disons quel sommaire, on va commencer par une polémique autour d'une série Netflix.
Elle n'était pas encore diffusée, qu'elle était déjà décriée. La série Messia, produite par Netflix, n'est disponible que depuis hier, mais la polémique enfle depuis plusieurs jours. En cause le thème de cette fiction, l'histoire d'un mystérieux inconnu suivi par des milliers de fidèles à travers le monde. Alors est-ce le Messie ou un escroc ?
Qu'est-ce qu'on sait de lui ?
Il guide des gens désespérés.
Alors c'est une secte ?
On ne sait pas avec qui il est allié. Il pourrait réunir une armée. Il pourrait bien les conduire à leur mort.
Alors ajoutez à cela que l'action se passe au Moyen-Orient, que vous avez tout le cocktail politico-religieux pour créer une polémique. La Jordanie, un des pays dans lequel a été tournée la série, compte interdire la diffusion sur son territoire. Une pétition a été lancée pour appeler au boycott de Messia. Elle a recueilli plus de 4200 signatures. Les gens qui signent la pétition n'ont même pas vu la série, se défend Thomas Sisley dans les colonnes du Parisien. Si ça avait été une propagande anti-quoi que ce soit, je n'y aurais pas participé, explique l'acteur français qui incarne dans la série un agent de la sécurité intérieure israélienne. Quant au créateur de Messia, l'Australien Michael Petroni, il reconnaît que la série est provocatrice, mais provocateur ne veut pas dire offensant. En tout cas, les 10 épisodes de la première saison de Messia sont disponibles depuis hier sur Netflix.
Autre polémique potentielle, l'AFP, l'agence France Presse, serait également une agence de communication.
Et ben d'après le Canard Enchaîné, cela fait plusieurs semaines que l'AFP réalise des clips publicitaires pour le compte de McDonald's via une filiale nommée AFP Service, filiale qui a déjà travaillé entre autres pour Coca-Cola, AG2R ou encore le gouvernement du Qatar.
Curiosité, on en a dit quelques mots d'un autre genre maintenant. M6 a diffusé une coupure pub pendant une pièce de théâtre.
Alors l'info, ce n'est pas que M6 diffuse de la publicité, hein, mais qu'elle réussit cet exploit alors que la pièce est censée être en direct. La chaîne diffusait l'invitation pour sa dernière représentation au théâtre de la Madeleine à Paris. C'est l'histoire de Daniel, un séducteur incarné par Gad Elmaleh, qui s'invente un ami imaginaire pour pouvoir tromper sa femme. Tout se complique quand sa femme demande à rencontrer ce fameux ami. Daniel invite donc un inconnu pour jouer ce faux ami.
Je t'aime.
Moi aussi je t'aime.
Moi je t'aime très très fort. Bon app.
Eh oui, vous n'avez pas rêvé, c'est bien une pub que vous entendez partir. Alors je vous rappelle que la pièce est censée être diffusée en direct pour sa dernière représentation, mais ça c'est un détail.
Daniel m'a dit que vous aviez beaucoup perdu au poker mercredi dernier.
Voilà, un gros blanc, des applaudissements coupés en plein milieu. M6 n'a pas fait dans la dentelle, hein, vous l'avez entendu. Et prouvé ainsi que c'était peut-être une captation en direct, mais en tout cas une diffusion en léger différé.
Alors a priori ce soir, il n'y aura pas de coupure pub pendant le documentaire sur les trésors du patrimoine équestre français. Documentaire diffusé sur France 5.
Oui, direction les grandes écuries du château de Chantilly dans l'Oise. Ce sont les plus grandes écuries d'Europe construites au XVIIIe siècle.
Ces écuries ont une âme. Je ne sais pas comment vous dire ça. Elles sont habitées quelque part. Quand on arrive sous le dôme, on est émerveillé, mais choqué par une telle beauté. Ensuite, on imagine les fêtes qui ont eu lieu. On imagine les gens qui ont travaillé là. On imagine ces 240 chevaux qui étaient présents au XVIIIe siècle. C'est complètement fou de faire une écurie pareille. Mais c'était le petit-fils de Louis XIV. Donc peut-être qu'en ayant vu son grand-père faire Versailles, pourquoi pas une écurie ?
Le documentaire nous fait justement aussi découvrir les écuries royales de Versailles, le haras national du Pin, le cadre noir de Saumur, la garde républicaine et ses 460 chevaux. Mais au-delà des lieux, le film réalisé par Céline Galde nous emmène à la rencontre des femmes et des hommes dont la vie est liée à ce patrimoine équestre français. Vous découvrirez ainsi Sylvain Pintus, le dernier fourbisseur français. Il s'occupe de réparer les sabres de la garde républicaine. Certains ont plus de 200 ans.
On travaille dans un musée vivant. Voilà, ouais. On s'attache à ce qui soit vivant. C'est-à-dire que nos sabres datent de février 1823 à 1922. Et on s'attache vraiment à ce que les plus anciennes pièces soient en service. Chaque sabre a une histoire. Ouais. Il a un matricule, il a des poinçons, il a des marquages. Et les marquages sont liés à la manufacture. Les matricules sont liés au régiment. Et les poinçons sont liés aux armuriers intervenant soit à la fabrication, soit à la réparation.
Chaque année, dans son atelier, Sylvain Pintus répare 400 armes blanches. Et dans d'autres ateliers, comme ceux de la Maison Hermès, ce sont des selles que l'on fabrique. Un artisanat au cœur de ce documentaire présenté par Sophie Jovillard. Elle est au micro d'Alexandre Omar.
En fait, on montre qu'on peut aller bien au-delà de la simple équitation ou du simple amour pour le cheval. On va bien au-delà de ça. On montre qu'il y a une excellence française grâce à cette équitation de tradition française, qui est quelque chose, une fois de plus, j'insiste, absolument unique au monde. Et c'est ça que nous allons montrer dans le film.
Les trésors du patrimoine équestre, c'est un documentaire de Céline Gall, à voir ce soir donc à 20h50 sur France 5.
Et puis après les écuries de Versailles, les cuisines de Versailles.
Oui, avec Alain Ducasse, il est le chef le plus étoilé au monde. Il possède plus d'une vingtaine de restaurants, dont un dans le château de Versailles, où il revisite la gastronomie du temps de Louis XIV. C'est l'ouverture de ce restaurant en 2016 qui sert de fil conducteur à ce documentaire qui nous fait voyager avec les yeux d'Alain Ducasse.
Mon hobby préféré, c'est d'aller regarder et de trouver des produits, d'aller goûter partout dans le monde. C'est mon obsession.
Kyoto, c'est un concentré de culture, de nourriture. On est dans le sommet de l'excellence et du raffinement. C'est un des meilleurs dîners en 20 ans que j'ai fait au Japon.
Pour avoir goûté tous les caviars du monde, le chinois pour moi est le meilleur aujourd'hui. Il y a une méthode d'élevage importée d'Iran.
C'est un perfection.
Japon, Brésil, États-Unis, Chine, le réalisateur Gilles Demestre a suivi Alain Ducasse partout pendant 2 ans. Il a filmé autant des dîners de gala qu'un dîner de charité pour les sans-abri en plein cœur de Rio. Et pourtant, ce projet avec Alain Ducasse a bien failli ne pas exister. Écoutez le réalisateur Gilles Demestre au micro d'Alexandre Omar.
Il m'a dit non, direct. Il m'a dit que bon, il n'avait pas le temps, que ça n'intéressait pas tellement, voilà, que lui, il était plutôt dans le travail et dans la construction de ses restaurants et dans le service à ses clients, et qu'il n'était pas là pour faire de la communication. On s'est revus, on s'est re-revus pendant des mois et des mois. Puis au bout d'un moment, je lui ai raconté quand même le projet et la façon un peu discrète dont j'allais le suivre, puisqu'en fait, moi, je suis parti tout seul avec une petite caméra dans ses pas. Et puis, on a lié cette relation de confiance. Mais ça a mis du temps et il a accepté que je parte avec lui. Et on a été dans des pays... on est partis tous les deux tout seuls au fin fond de la Mongolie, enfin, aux Philippines. On a été dans plein d'endroits comme ça, et c'était génial de pouvoir le filmer.
Un document rare, vous l'aurez compris. La quête d'Alain Ducasse était sortie au cinéma en 2017. Il est à voir pour la première fois à la télévision ce soir à 22h20 sur France 3.
Ça ne vous a pas échappé, on est passé de 19 à 20, on a changé d'année et au passage, certains journaux ont changé de prix.
Oui, la presse n'échappe pas aux hausses du 1er janvier, vous l'avez peut-être constaté dans vos kiosques. Aujourd'hui en France, Le Parisien et L'Équipe ont augmenté. Le quotidien sportif coûte désormais 1,80€ en semaine, soit 10 centimes de plus qu'avant. Le Parisien passe de 1,50€ à 1,60€ et aujourd'hui en France, de 1,20€ à 1,30€.
Et Libération ne change pas de prix, son directeur sera avec nous, mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas pour ça que nous l'avions invité. Lui n'en vendra bientôt plus des journaux après avoir fait ça pendant plus de 40 ans.
Figure bien connue du quartier Saint-Germain dans le 6e arrondissement de Paris, Ali Akbar, dernier vendeur de journaux à la Criée de Paris, prend sa retraite.
Le Monde.
Alors, Le Monde, c'est le journal qu'il vend le plus. Dans les années 90, il écoulait jusqu'à 1000 exemplaires par jour, raconte Le Point. Aujourd'hui, il n'en vend plus qu'une cinquantaine, entre 14h et 21h, sachant qu'il ne touche que 30 centimes par exemplaire vendu, c'est peu. À 66 ans, il compte ouvrir un food truck avec l'un de ses 5 fils devant le jardin du Luxembourg. La mairie du 6e a donné son accord. Il ne lui reste plus qu'à trouver l'argent pour s'acheter un triporteur électrique. Ali Akbar peut compter sur la solidarité des gens du quartier, et notamment l'association des anciens élèves de Sciences Po, qui a lancé un appel aux dons.
Merci beaucoup, Lise Pressac. À demain.
À demain.